On est dans le jour de Marie, samedi, le grand sabbat. Alors on est avec, bien sûr, toujours pareil, hein, un appel de Dieu qui est très fort, hein, qui est très puissant. Hein, j'espère que tout le monde entend, hein, l'appel de Dieu qui est très fort. C'est un appel à l'amour, hein, c'est un appel à l'amour de Dieu. Pas seulement à l'amour du prochain, hein, à l'amour de Dieu, et à la perfection dans l'amour du prochain. Parce que aimer son prochain, tout le monde aime son prochain. Moi, tu sais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Voilà, en ce moment. Hein. Tout le monde fait ça. C'est vrai. Tant que tu ne me donnes pas un coup de pelle sur la tête, je t'aime. Mais tout le monde aime. C'est normal. Mais l'amour du prochain et l'amour de Dieu ensemble, c'est quand même un appel très fort. C'est un appel. Si on a été appelé à l'existence, c'est pour avoir cet amour de perfection. C'est pas un amour simplement animal ou un amour simplement philosophique. Un amour humain passager, avec ses fragilités passagères. Non. Alors la fragilité passagère, on va finir par aimer les fragilités passagères, parce que sinon on pourra pas aimer le prochain, puisque les fragilités passagères sont permanentes. Alors du coup, et si vraiment on veut aimer son prochain en même temps que l'amour de Dieu, on va finir par ne plus aimer Dieu et on va aimer les fragilités. Et non, on est appelé justement à accepter les fragilités. C'est vrai. Les reconnaître pour ce qu'elles sont. Elles sont le péché. Le péché n'est pas la base de la vie humaine. C'est pas ce sur quoi on se lève pour aller vers Dieu et on prend le carburant de la miséricorde de Dieu. Mais la base, c'est le péché. Et on prend la miséricorde comme carburant pour continuer à se lever dans le péché. Ça, c'est pas du tout catholique. C'est pas du tout catholique. Alors on entend cet appel, quand Dieu nous appelle, il parle à son peuple, hein, il parle à ses enfants, il parle au fond, hein, il parle, et qui est-ce qui a entendu? Qui a entendu? Eh bien, les enfants qui ont entendu sont des engendrés éternels de Dieu, pas seulement des engendrés éternels du péché. C'est des engendrés, d'ailleurs les engendrés éternels du péché, c'est les démons, et nous ne sommes pas des démons. Donc la révélation, c'est que nous ne sommes pas des démons. Nous sommes parfaitement appelés par Dieu, nous sommes parfaitement appelés à la perfection de Dieu, et nous nous levons heureux. Lève-toi, debout, et fonce, vole. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu. Ils entendent qu'ils sont parfaits, et qu'ils vont vers la perfection, et que leur fondement, c'est une perfection. Et que s'il y a des fragilités, eh ben, elles doivent disparaître. Ils ne doivent pas s'appuyer. Malheur à celui qui est orgueilleux. Malheur à celui qui est impur. Malheur. Malheur, ça veut dire il est plombé. C'est le contraire de heureux. Heureux, ça y est, tu es toi-même dans la petitesse, tu es toi-même dans la pureté. Tu peux voler, tu peux courir avec le carburant de la miséricorde de Dieu qui te permet d'aller dans une sainteté. Déjà, d'une perfection de sainteté, tu peux aller à une perfection, une virginité surnaturelle et divine encore plus grande. Voilà la miséricorde de Dieu. Dieu fait miséricorde à l'Immaculée Conception continuellement. En la faisant surabonder dans tous ceux avec qui il se fait alliance, avec Saint-Joseph, avec les enfants, avec nous. Le peuple de Dieu, c'est ceux qui entendent l'appel de Dieu. Marie, elle dit, me voici, j'ai entendu. et me voici. Je vais toujours bien au-delà de moi-même. Je suis une toute petite. Je suis plénitude de grâce, je suis plénitude de perfection, je suis plénitude d'amour divin et de surabondance. Eh bien, j'entends l'appel de Dieu qui me dit « Va beaucoup plus loin que ça. Prends la miséricorde de Dieu, la divine et éternelle. Ne t'inquiète pas. Il a été promis qu'on ne briserait pas les os de l'agneau innocent immolé. Parce que l'agneau ouvre les secrets de cette miséricorde. Mais la miséricorde se déploie dans l'autel de la justice éternelle de Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu qui fait miséricorde. Et si ça ne déploie pas au-delà, ben c'est que c'est pas une miséricorde, c'est que c'est une complicité diabolique. Et puis c'est tout. Voilà. Il y a l'Église qui est une Jérusalem nouvelle, qui sort du péché, qui rentre dans la spontanéité, et la surabondance, qui va même au-delà de la spontanéité, dans sa source virginale, éternelle et surabondante. Et oui, et puis il y a la fausse Église. Il y a la fausse Église. C'est pas la Jérusalem de Jésus, c'est pas la Jérusalem du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, c'est pas la Jérusalem de l'agneau, de l'Immaculé et du Père, non. Et la Jérusalem, il y a une Jérusalem qui est terrestre et parce qu'on n'a pas entendu l'appel de Dieu, elle est malédiction, source de malédiction, surabondance de malédiction. Elle ne se lève que pour faire le mal. Oui, il y a une église de Satan. Il y a des hommes qui s'aiment mutuellement et qui s'appuient les uns sur les autres en disant « En marche, debout, allons-y. Heureux. Allons-y. » Ils s'appuient les uns sur les autres pour rentrer dans une église ésotérique, gnostique, une doctrine qui explique, justifie, établit le mal. Ce que Dieu ne veut pas. Il y a des églises, on appelle ça les fraternités, ils s'aiment, hein, les fraternités opératives. Il faut faire attention parce qu'elles investissent, elles ont infiltré l'église de Jésus. Satan est venu, il a infiltré, livré dans le champ eucharistique immaculé de l'église, la terre immaculée dans laquelle elle possède. Il ne faut pas se tromper, je veux dire. Il y a des doctrines d'amour fraternel, opérantes, extrêmement séduisantes, parce qu'elles ne culpabilisent pas. Ou elles déculpabilisent, puisqu'elles font une loi qui autorise l'abomination. Qu'il l'établit au même niveau que la sainteté, et qui même écarte ce qui n'est pas la sainteté, comme étant un empêcheur de justice vis-à-vis de ceux qui s'allient pour vivre l'abomination. Alors, ma doctrine, c'est la crainte du Seigneur. Voilà ce que dit l'Antienne aujourd'hui. La crainte du Seigneur, et c'est Dieu qui compte. On ne fait pas une philosophie. Il n'y a pas trois philosophies aussi. Là aussi, supposons que nous ne soyons pas chrétiens. L'Église, Dieu, il annonce au monde entier. Bon, même si vous n'êtes pas chrétien. Voilà, vous avez été conçu dans les fraternités opératives. Vous avez entendu vociférer contre l'Église chrétienne, les apôtres et les sacrements. Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs épouvantables de l'inquisition, de la cruauté, de l'écrasement, de l'injustice, du dépeçage. Donc vous avez toujours entendu ça, vous n'êtes pas dans l'Église catholique, parce que vous avez été conditionné pour ça. Mais quand même, vous pouvez être philosophe, vous avez la sagesse quand même, vous avez le bon sens, l'appel de Dieu, c'est pour tout le monde. Vous venez de Dieu quand même. Eh bien, il n'y a pas trois sagesses. Il n'y a pas trois sagesses. Elle n'existe pas, trois sagesses. C'est, S'il y a trois sagesses, voilà, ça veut dire qu'il y a une sagesse, voilà, pour les hommes, où on développe un petit peu la vérité de l'injustice, finalement, puisque on n'est pas ajusté à notre source, on n'est pas ajusté à la créateur de Dieu, on n'est pas ajusté à la finalité en Dieu, on n'est pas ajusté à la perfection. On est ajusté simplement à une espèce de cimentage, ou on maçonne, je ne sais pas quoi, un magma d'imperfection, de camouflage, d'occultisme et de fausse gnose. Et la philosophie sans Dieu et la philosophie sans la perfection, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une sagesse. En fait, il n'y a qu'une seule sagesse. Et il n'y a qu'une seule sagesse, c'est une sagesse de perfection. Oui, mais la plupart des gens ne sont pas parfaits. Ah, la plupart des gens ne sont pas parfaits. Ça, c'est vrai, la plupart des gens ne sont pas parfaits. Très bien. Eh bien, une sagesse normale, même si on ne parle pas de Dieu, c'est une sagesse qui dit, voilà la vérité sur ce qui est la plénitude de l'humain, ce qui est la plénitude de la personne, ce qui est la plénitude de la liberté, ce qui est la plénitude de l'accomplissement, ce qui est la plénitude des relations pacifiques. Il y a une sagesse, et elle est possible, elle n'est pas impossible, elle est tout à fait conforme à la nature. Et si elle s'en dévoie, elle est abominable. Et donc une sagesse qui justifie l'abominable est une abomination. En fait, elle n'existe pas. C'est pour ça que je connais certaines personnes qui disent qu'il y a trois sagesses. Et qui sont catholiques. Elles ont engendré ça. Se justifient. Pourquoi une sagesse en elle-même a son autonomie, une doctrine a son autonomie, elle a sa perfection en elle-même, si, même si elle est complètement séparée des autres sagesses, qui sont des sagesses métaphysiques. On est quand même originé dans la perfection de l'acte pur, créateur de tout ce qui existe. J'ai pas besoin d'avoir la foi pour le savoir, ça. Et je suis originé dans une sagesse. Il y a aussi une troisième sagesse qui est une sagesse messianique, celle où on explique comment la grâce, l'intervention de Dieu et la rédemption opèrent et changent en vérité la pâte humaine, le cœur humain, dans ses imperfections pour que l'imperfection disparaisse. Pas pour qu'on la camoufle. Dans une soi-disant miséricorde de Dieu qui se nourrit du péché pour pouvoir être miséricorde et qui entretient le péché pour continuer à faire miséricorde. Non, non, non. Si je sépare les trois sagesses de la doctrine, eh bien, cette doctrine, elle est indivisible. Elle est dans l'indivisibilité de la lumière. Et nous avons été créés dans cette lumière. Et le Verbe de Dieu a illuminé tout homme à l'instant où il vient dans ce monde. Et c'est dans l'unité de l'esprit, de cette lumière, des sources de ma vie intérieure et de la chair, qu'il y a cette unité. Alors oui, c'est facile de reconnaître quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Il y a une église de Satan, il y a une église d'abomination. Oui, il y en a. Et elle a sa doctrine. C'est une doctrine justifiante, c'est-à-dire qu'elle justifie l'abominable. Et bien ça, aujourd'hui, on doit entendre la parole de Dieu qui est révélée par Moïse, et puis aussi par Jésus, et puis aussi par l'Église johannique, et par l'Immaculée Conception, qui infailliblement se donne eucharistiquement dans tous ses effets surabondants, vivants, féconds, efficaces et effectifs. Il y a un appel à la perfection. Cette perfection, si elle n'existait pas, eh bien on n'y serait pas appelé. S'il n'y a pas un fondement de perfection à cet appel, d'une perfection qui a peut-être, dont on s'est peut-être éloigné, si ce fondement n'était pas une perfection, eh bien, on n'y serait pas appelé à y revenir et à la faire surabonder dans les perfections de Dieu. Ah, tu aimeras ton prochain? C'est dans la Torah, ça. Tu aimeras ton prochain, et Jésus dit, mais c'est qui ton prochain? Et ton prochain, c'est celui qui te fait du bien, c'est le bon samaritain. Qui est le prochain? Ben, c'est celui qui a fait du bien à cet homme blessé, fragile. Il lui a fait du bien. Il a fait sortir. Il a guéri du mal. Il l'a guéri. Il lui a fait du bien. Eh bien, celui qui est blessé, qui a été guéri du bien par le bon samaritain, eh bien, il doit aimer son prochain. Il doit celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Voilà ce qu'il y a dans la Torah. Tu aimeras ton prochain. Ton prochain, c'est celui qui fait preuve de bonté envers toi. Et la bonté envers toi, c'est qu'il t'a vraiment sorti du péché, du mal, des blessures, de la fragilité. Et il t'a mis, et puis il surveille, et puis il continue, et il ne s'arrête pas. Et dans la parabole du bon samaritain, tu aimes ton prochain. Le jeune homme, il demande, c'est qui ton prochain? Le pharisien demande, c'est qui ton prochain? C'est celui qui fait preuve de bonté envers toi. Celui qui a fait preuve de bonté, c'est Jésus, quoi. Tu dois aimer Dieu et ton prochain. Et ton prochain, c'est celui qui fait preuve de bonté envers toi. C'est Jésus. C'est tes frères qui sont membres vivants de Jésus vivant. Parce que, voilà, eux, ils vivent avec toi et ils collaborent avec toi dans la miséricorde, de la sainteté, de la perfection, vers l'union transformante parfaite de la sponsalité dans le mariage spirituel. Au commencement, Dieu a créé l'homme, homme et femme. Si j'oublie que c'est Dieu qui a créé la sponsalité et que la sponsalité fait partie substantielle de la perfection originelle, et que Dieu est sponsalité, que ça c'est pas une métaphore, si j'oublie ça, ben évidemment, être homme, femme, homo ou bête, c'est pareil. Être abominable ou être dans le mariage spirituel qui vient s'abreuver dans la virginité surnaturelle divine agréée de Dieu, c'est pareil. L'horreur du sordide sexuel immonde, et c'est pareil. Normalement, ces sagesses gnostiques des fraternels opératifs qui ont infiltré l'Église doivent être rejetées avec une immense violence. Et doivent être démasqués. Ézéchiel a dit, si tu ne démasques pas le méchant, la malédiction qui était sur le méchant tombe sur toi. Mais si tu démasques le méchant, et du coup sa méchanceté ne peut plus avancer, alors à ce moment-là, tu seras... La malédiction ne sera plus sur toi. Bref, il faut aimer son prochain dans l'Ancien Testament. Et même les païens, ils en font autant. Bien sûr, quelqu'un qui fait preuve de bonté continuellement envers toi, tu l'aimes. Hein. Mais il faut aller plus loin. La perfection, c'est pas d'aimer son prochain. Hein. La perfection, c'est aimer vos ennemis. C'est là où on voit que c'est une nouvelle alliance, quand même. Le carême, c'est l'Église qui doit aller de la sainteté de la Jérusalem, de la grâce des saints, à la Jérusalem nouvelle, c'est-à-dire au dépassement total de la sainteté des sacrements et des lois d'amour et de la d'une sagesse philosophique même quasi parfaite. Et oui, si tu dois aimer ton prochain, on vous a dit aimer votre prochain. Et moi, je vous dis, debout, allez plus vite, aimez vos amis, priez pour ceux qui vous persécutent. Ayez un cœur profond, ayez un cœur, retrouvez le fond du cœur. Le cœur ne suffit pas de la gratitude du bien qu'on vous fait, mais allez au cœur profond, jusqu'au cœur spirituel qui plonge dans l'assomption d'un gré. Là aussi, c'est pareil. Il n'y a pas une morale. Il n'y a pas trois morales. Bien distinctes chacune d'entre elles. Séparées les unes des autres. Il y a une espèce de morale humaine où on aime avec les vertus, les qualités humaines les plus admirables, etc. Et puis une morale chrétienne. Une morale chrétienne qui est celle du cœur spirituel assumé en Dieu, où c'est beaucoup plus que l'amour humain qui brûle notre cœur. C'est l'amour séraphique et la très intrinsèque qui brûle. Et qui fait que notre cœur humain s'épanouit tout à fait lui-même dans son éternité. Hein, les trois lys se déploient ensemble dans une seule sève, un seul embrasement. Et puis il y a une morale, c'est-à-dire une éthique, enfin une sagesse, une doctrine de l'amour, qui est enracinée quand même dans l'appel de Dieu, dans l'acte pur, dans la création, dans le cœur fondamental, dans le fond du cœur, À partir de rien, nous avons un fond du cœur qui apparaît vivant. Et qui entend, quoi, qui reçoit cette force pour aller de manière oblique, peut-être pas verticale, mais oblique, et continuellement jusqu'à l'éternité, vers l'Esprit Saint, vers la source de l'amour créé. Alors, bien sûr, on va dire, donc il y a trois morales. Il y a la morale de l'innocence divine originelle, qui est l'être humain. Il y a la morale où on dit, ben non, c'est un amas de cellules, ça devient une personne au bout d'un certain temps. Et donc on va établir une morale pour l'éducation de l'enfant. À partir du moment où il aura 3-4 ans, on va dire, attention, on va faire ça. Voilà. Une morale humaine de la terre, quoi. Et puis voilà, pour que on ne dise pas trop que c'est un garnement, que c'est un pourri, que c'est un pervers, etc. Et qu'on ne regarde pas toute la famille en disant « qu'est-ce que c'est que cette famille ?» Alors il y a cette morale. Et puis il y a la troisième morale, c'est la morale, c'est-à-dire les chemins, quoi, où on court facilement dans la sainteté, et au-delà de la sainteté, dans l'union, de l'amour dans le cœur humain, et le porteur, le tabernacle, et l'instrument. Donc il y a trois morales. Ben, le pape, quand il a vu que dans l'Église catholique, le pape Jean-Paul II, quand il a vu que dans l'Église catholique, il y avait des doctrines d'une perversion totale qui disait qu'il y a trois sagesses, elles sont séparées, chacune a son autonomie, sa perfection. Et maintenant, il y a trois morales, il y a trois éthiques. Il y a l'amour d'amitié, il y a l'amour religieux, et puis il y a l'amour chrétien, et les trois sont séparés, chacune à sa perfection en elle-même. C'est pas possible de dire ça. Si tu sépares les trois, si tu les sépares, si tu justifies la séparation de celle du centre des deux autres, c'est une chute totale. Ça devient une fausseté. Tu es obligé, si tu les sépares du fondement du cœur profond, du fondement du cœur. Et si tu ne sais pas de la sainteté, de l'amour en lui-même véritable, ben, tu es obligé de retourner l'absence des deux autres, parce que la nature est horreur du vide, et ça se retourne contre toi-même, et ta morale devient une morale où tu es assumé par le démon, et puis c'est tout. Alors c'est sordide, c'est horrible, c'est scandaleux. C'est tout de suite, ça se voit tout de suite, c'est un prêtre, un prophète, ou je sais pas quoi, ou un sage, s'il enseigne de cette manière-là. Ça se reconnaît immédiatement. Tu es notre Père. Il nous aime et il nous dévoile, il nous montre où est le piège, où sont les instruments du tentateur, les instruments de Lucifer, même à l'intérieur de l'Église de Jésus. Et le carême, il est là. Le jour du sabbat, les portes s'ouvrent. Le jour du grand sabbat, les portes s'ouvrent. Jésus a déchiré les portes. Il est rentré dans l'Immaculée Conception. Il est rentré dans la Jérusalem johannique de l'unique sagesse unifiant tout par la fin et par le fondement. Il a ouvert ses portes dans la paternité sponsale qui a pénétré jusqu'au fond des ténèbres de la mort. Il a communiqué. En ouvrant toutes ses portes, il a communiqué, il a rétabli tous les liens. De sorte que désormais les liens d'amitié, d'amour entre les hommes est possible, parce qu'il peut aller du fond jusqu'à la fin. Et de la fin jusqu'au fond, dans un flux-reflux, qui n'est pas exclusif, et qui n'est pas une abjuration, une apostasie. De l'alpha et de l'oméga, et donc Jésus a ouvert les portes eucharistiques en se réfugiant dans le cœur de Marie, en donnant son souffle eucharistique, sacerdotal, à l'unité d'amour, et en communiquant la lumière de gloire à Saint-Joseph. Et en communiquant la lumière de gloire à Saint-Joseph, l'âme, le souffle de l'esprit de Jésus, s'arrachant comme ça, en communiquant la lumière de gloire à Saint-Joseph. Mais il a fait pénétrer l'âme humaine, deux âmes humaines dans une amitié originelle, qui a pénétré à l'intérieur du face-à-face un gré de Dieu. Et dans le face-à-face sacré de Dieu, on trouve comme ça l'amour qui est un appel à l'anastase. Qui est un appel. Le nouvel ange Gabriel à Marie, au pied de la croix et aux portes du tombeau. Et le nouvel appel, le nouvel ange Gabriel, appelle une virginité, un amour encore plus parfait. Parce que la perfection appelle une perfection toujours infiniment supérieure. Et elle va répondre oui à ce nouvel amour pour rentrer dans cet amour où l'ange Gabriel lui apparaît cette fois-ci dans la transverbération sacerdotale du Père et du Fils. Elle va dire oui à tout ce qui est, lui est ainsi révélé au-delà de tout. De tout amour divin et messianique et donné par Jésus pour le salut du monde. Elle va dire oui. Elle sera assumée dans ce oui. Elle engendrera dans ce oui de la rédemption accomplie. Elle engendrera la résurrection de la chair. Parce que si Jésus ressuscite, c'est à cause de Marie, c'est grâce à Marie, c'est dans le oui de Marie, c'est sa maternité qui le fait, le corps spirituel. Alors bien sûr, et du coup on comprend grâce à cette avancée vers la Pâque, la mort et la résurrection du Christ, on comprend tout de suite que bien sûr oui, il y a le corps spirituel. Et quand même, bien sûr, le corps spirituel, Marie, Mère de Dieu tout de même. Dans le corps spirituel, il y a le corps fondamental qui est un corps primordial, qui est un corps de perfection. Dieu n'a pas créé l'unité de l'âme, de l'esprit du corps et du Verbe de Dieu l'illuminant dans l'un si ce n'est pas d'une perfection totale. Il y a le corps primordial avec la signification sponsale de ce corps. Il y a le corps spirituel qui est la vocation chrétienne du carême. Et entre les deux, il y a le corps psychique. Alors, on va faire un catéchisme du corps psychique, du corps de péché, du corps du corps, voilà, de la chair, quoi. En disant comment est-ce qu'on va gérer l'agréable et le désagréable. Et en le séparant du corps originel qui n'existe pas, forcément. Et en le séparant du corps spirituel venu d'en haut. Mais il y a un seul corps, enfin, tu nous as donné dans un seul corps, sous le souffle du Saint-Esprit. Donc le lien entre le corps originel, le corps spirituel venu d'en haut, et notre corps psychique, élève le corps psychique à l'indivisibilité des trois. Une théologie qui se détache, une théologie, une sagesse qui se détache. C'est une sagesse criminelle. C'est une sagesse du désespoir éternel. Elle est facile à repérer, parce qu'elle justifie tout. Elle met qu'il y a des degrés, il y a des degrés. Il y a des degrés, quoi. Il y a des degrés, il y a des degrés de perfection et d'imperfection. Alors, mais la dignité est toujours la même. À 90%, la dignité est toujours la même, mais il y a des degrés de perfection et d'imperfection. Bon, ben, donc c'est pas grave, on n'a pas à juger. C'est comme ça. Ce qui compte, c'est qu'on soit solidaire dans cet agréable et désagréable. Ça va pas dire ça. Voilà, et je connais des gens qui écoutent par centaines, par milliers, qui écoutent ce que je viens de vous dire. Ce que je viens de vous dire là, pendant un quart d'heure, là. De la bouche de prêtre. Extasié, ravi. Enfin, on nous parle, enfin, on ose parler de ces choses-là dans le détail. Et c'est tellement admirable. Alors, il faut vraiment demander pardon parce que ça ne suffit pas de reconnaître qu'il y a eu des souillures, qu'il y a eu des... Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'avoir reçu l'absolution. Hein. Ça ne suffit pas de dire on va faire tout pour en faire, le faire un peu moins, pour passer d'une indignité à une indignité un peu moins, à une indignité un peu moins. Mais le moindre péché est une abomination. Même le cheveu, le petit cheveu, ce sera l'abomination terminale, le petit cheveu. On est appelé à la perfection. On est appelé à la perfection. Eh bien, il faut prier pour ces prêtres-là. C'est vrai, les prêtres se sont fait une... se sont construits une doctrine inversée, une doctrine méchomique, une doctrine... abominable, parce que elle a inversé les choses. Elle parle avec bienveillance, elle parle avec amitié, elle parle avec fraternité. Mais en inversant, par inversion, eh ben il faut avoir aimé ses ennemis. Donc ces prêtres-là qui sont les ennemis du christianisme, les ennemis de la sagesse, les ennemis de la métaphysique, les ennemis de la métaphysique de la personne, les ennemis de l'origine et de l'accomplissement naturel et spirituel de l'homme, eh bien, il faut les aimer, il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Il faut être miséricordieux avec eux. Pas miséricordieux au sens, on te pardonne et tu continues. Hein? Non, c'est pas ça. C'est miséricordieux au sens chrétien. Alors, je vais vous donner une petite chose du catéchisme. Comment vous faites pour être miséricordieux avec votre ennemi, avec un ennemi de Dieu, avec un persécuteur féroce? Là, je me rappelle, on me l'avait fait apprendre par cœur quand j'avais 6 ans. Donc, tous les cathos savent ça, n'est-ce pas bon? Si tu veux aimer ton ennemi, c'est très simple. Tu lui fais miséricorde. Quels sont? Eh bien, quelles sont les sept, quelles sont les voies pour lui faire miséricorde? Comment est-ce que tu vas savoir que tu l'aimes et que tu as vraiment fait miséricorde? Eh bien, il n'y a qu'une seule porte d'entrée. Je ne sais pas si vous le savez. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée. C'est avertir le pécheur. Si tu ne l'avertis pas, tu ne peux même pas essayer de faire les actes d'amour et de miséricorde suivants. C'est impossible. Avertir le pécheur. Ça, c'est un péché. Et tu vas à la damnation, là. Et je ne veux pas, moi, que tu ailles à la damnation. Je veux. C'est par bienveillance. Je ne démasque pas mon ennemi pour qu'il soit vilipendé. Mais je l'avertis. L'avertissement, c'est un acte de miséricorde. Quand il va y avoir l'avertissement, il ne faudra pas le prendre comme un châtiment. Ce sera une miséricorde. Oh, on va voir. Attention, ça, c'est abominable. Mais pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Avertir le pécheur. Seul à seul, si tu veux, mystiquement par son ange gardien, avertir le pécheur. Oui, mais tous ceux qui l'ont écouté et qui ont été éblouis, et que du coup, moi, je me rapproche de Dieu, si c'est comme ça, si c'est ce qu'il dit tellement éblouissant, du coup, je me rapproche de Dieu, toutes les conversions qu'il fait, etc. Eh bien, il ne faut pas seulement avertir le pécheur, il faut enseigner les ignorants. Il y a quelque chose qu'il ignore et il communique son ignorance. Donc il ne faut pas seulement l'avertir, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer. Il ne faut pas faire l'idiot, quoi. En disant, il est très intelligent, moi je ne peux pas lui répondre. Tu dis, bien sûr que si. La sagesse a été donnée au simple. La perfection de la sagesse a été donnée au simple. C'est ce qu'il y a dans l'antienne de la messe aujourd'hui. Enseigner, ignorant. Tu ignores, je vais t'expliquer, moi. Oui, mais enfin, alors, c'est qui a raison là-dedans? Alors, le troisième acte de miséricorde, c'est de conseiller, c'est de donner de bons conseils à ceux qui doutent. Il faut conseiller ceux qui... Moi, j'ai construit toute ma vie religieuse, toute ma vie sacerdotale là-dessus. Alors, je suis déstabilisé. Du coup, je doute. Eh bien, je conseille à ceux qui doutent. Conseiller ceux qui doutent. Mais du coup, il s'énerve un peu, il est paranoïaque, il triture ses boules, sa montre, son chapeau, il fait la grimace, il a l'éthique, etc. Il y a des mouvements du mauvais en lui, etc. Bon, supporter patiemment les personnes désagréables. Mais du coup, il se sent blessé. Tout ce qu'il a fait, c'est zéro. C'est horrible, il pleure, enfin, je veux dire, il désespère. Consoler les affligés. Si j'ai fait ces cinq actes, en commençant par le premier, c'est même pas la peine de faire les suivants si j'ai pas fait le premier. Ça sert à rien. Puisque du coup, je le laisse enfermé dans sa sagesse abominatoire. Et donc, j'ai fait quelque chose de très très mal. C'est sûrement pas un acte de bienveillance. Alors, consoler les affligés. Et puis le septième, c'est tu pries pour lui à ce moment-là. Ce que dit Jésus, aimez vos ennemis, voilà les cinq premiers actes. Et si tu aimes ton ennemi, si tu vas dans sa lumière, dans son ange gardien, dans le fond de son appel originel et de son appel final, si tu déposes avec Jésus, tu viens avec Jésus dans son âme pour y déposer la prière, ta prière, pour déposer en lui le sang précieux de Jésus, pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il soit arraché à Satan. Enfin bref, si tu fais les cinq premiers actes, à ce moment-là, tu peux prier pour lui. Tu peux prier pour lui parce que la rosée, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, sur toute la surface de la terre, pénètre une âme qui est toujours parfaite dans sa soif, dans ses capacités d'amour et de perfection. Et le soleil, la rosée, le soleil, tu pries pour lui. Tu ne peux pas prier pour lui pour faire pousser l'horreur de l'abomination et de l'ivraie. Donc si tu n'as pas averti le pécheur, c'est que tu ne l'aimes pas. Ouf, ça me fait du bien. ça me fait du bien quand même de dire ces choses-là, parce qu'elles sont... Eh bien, on peut prendre 10 minutes, justement, hein, à chaque fois. 5 jours du carême, on peut prendre 10 minutes. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour reprendre ces éléments fondamentaux, simples, d'une sagesse toute simple, puisque l'enfant, avant d'avoir un cerveau, l'entend, le comprend, le vit intérieurement, lucidement et librement. Donc, c'est pas besoin d'une sagesse diabolique, gnostique. Il faut retourner à ces éléments simples d'une lumière, la lumière du Verbe de Dieu qui illumine tout enfant 9 mois avant sa naissance et continuellement ensuite après par la rosée et le soleil. Alors, et c'est beau ça aussi, c'est vrai. Ce catéchisme, donc la doctrine de l'Église, elle dit, elle explique ce que c'est que la nature humaine dès l'origine et qui demeure. Et c'est quoi ce fondement du cœur, ce germe d'éternité qui est en nous, cette pleine possession de soi dès le départ, continuellement présente. Cette memoria dei, c'est quoi? C'est quoi? Il faut la regarder parce qu'on devient ce qu'on contemple. Si je contemple en moi ce qui n'existe pas, je vais devenir ce qui n'existe pas. Mais si je contemple en moi ce qui existe et ce qui est vivant, je deviens ce qui existe et qui est vivant. Donc quand le catéchisme de l'Église catholique me donne des mots, pour le contempler, c'est ce que nous faisons. Il faut prendre 10 minutes chaque jour. C'est la proposition que je me fais, moi. Et toutes ces facettes extraordinaires du diamant originel, de notre corps originel, de notre corps primordial, de notre Église primordiale, de notre âme primordiale, de notre unité primordiale. C'est le fait qu'on se sait responsable dès le départ de la famille humaine entière et du déploiement de la responsabilité dans la famille humaine tout entière et la création tout entière. Et on a cette force immédiatement opérationnelle pour la faire grandir dans la lumière et dans la de notre âme spirituelle, parce que nous sommes une âme spirituelle, nous sommes un esprit. Nous ne sommes pas qu'une bête un peu améliorée. Alors il y a un élément, il faut savoir que là, quand Dieu me crée, il crée un tabernacle. Il crée un tabernacle, il crée un enveloppant dans une petite goutte de sang, la toute petite goutte de sang qui est un tabernacle de la présence de Dieu qui dit « Me voici dans le temps de mon univers. » Il dit « Je m'aime, me voici. Me voici moi, Père, éternel et incréé. Me voici à l'intérieur de l'instant présent où je te crée. Je rentre dans le temps de l'univers. Et toi, en même temps, du coup, je te constitue comme tabernacle de cette présence réelle, ton amour à l'intérieur de l'univers. Tu es le tabernacle du nom d'Elohim, tu es le tabernacle du nom de Dieu. Ta présence, ton corps primordial, ta liberté originelle, c'est la responsabilité d'être porteur, d'être choisi d'une manière indélébile et continuelle, comme tabernacle du nom de Dieu, du souffle d'amour de Dieu, du tabernacle. Tu es le tabernacle du nom de Dieu. Tu es la présence réelle conservée. Tu es la mémoire du nom de Dieu. Tu es la mémoire. Dieu n'a pas mémoire, si je puis dire. Il a liberté, mais il crée un tabernacle du nom de Dieu pour qu'il y ait mémoire continuellement dans le temps de ce nom de Dieu. Et la parole du catéchisme est très claire. Mon innocence, je la contemple, je la regarde telle qu'elle m'est révélée. Elle m'est révélée comme la présence réelle, conservée aux mémoires du nom de Dieu. Je suis cette mémoire vivante du nom de Dieu. Je suis cette vivante conservation de la présence réelle du nom de Dieu. Je suis le tabernacle de Dieu dans ce monde. le Saint des Saints de toute sacralité reçue. C'est ce diamant, c'est moi, au fond de moi, dès le départ. Je suis le Saint des Saints de toute sacralité reçue et à recevoir. Et mon corps originel est le tabernacle de ce Saint des Saints, de cette mémoire. Eh bien, si on veut aimer son ennemi qui vous persécute parce qu'il est complètement athée, il faut lui dire, écoute, est-ce que tu sais que tu es le tabernacle de la sacralité reçue et à recevoir, du Saint des Saints. Moi, je t'aime à cause de ça. Ah, bien sûr, je transperce comme un glaive d'une manière très cruelle son athéisme. Eh bien, ça, donc, je lui... Mais après, je retourne chez moi, lui, je retourne chez lui, et du coup, je peux prier pour lui. Et du coup, il se dit, mais pourquoi pas, finalement. Et puis Dieu peut l'éclairer. Là, j'ai fait un acte d'amour pour mon ennemi. Si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Mais il faut le faire avec la sagesse, de l'humilité, de l'amour, du tout petit. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de le dire avec des paroles. Quand tu voyais la Sainte Vierge comme ça, elle te regarde juste, elle te regarde simplement. Et tu comprends que l'humanité, c'est pas un cochon. Et quand donc, toi, t'es pas un cochon. C'est tout. Tu regardes. Un simple regard est une parole. Si ton regard porte cela, dans l'âme de ton ennemi. Il faut aimer ses ennemis. C'est pas forcément d'aller se précipiter sur les gens et leur dire, bon, je vais vous êtes... et de faire ce qu'on appelle du prosélytisme. Le prosélytisme, c'est sans amour. Moi, j'ai la vérité, toi, t'as pas la vérité. C'est pas ça, l'amour des ennemis. L'amour des ennemis, c'est je présente un visage, je pose un regard d'amour. C'est pas un regard de vérité, c'est un regard d'amour. Mais, qui est un avertissement. Si la Sainte Vierge me regarde, pour la première fois, je vois le regard de la Sainte Vierge qui se pose sur moi, c'est un avertissement. C'est un regard d'amour, c'est un enseignement. Je comprends que je ne suis pas le tabernacle de la Pentecôte de l'Immaculée Conception, enfin d'une créature humaine. Je vois ce que c'est qu'une créature humaine. Je vois que je ne suis pas, que j'ai quitté. Parce qu'il y a un regard d'amour qui s'est posé sur moi. Je dois aimer mes ennemis. Je dois les avertir. Le regard posé sur eux, à distance ou en direct ou directement, porte ceci explicitement jusqu'au fond de lui-même. Et s'y dépose. C'est le tabernacle du nom d'Élohim. Il en fait mémoire, il demeure. C'est pas seulement l'instant initial qui dure un milliardième de seconde. Il demeure. De sorte que l'acte de Dieu non seulement a surgi dans un seul instant d'histoire du temps, mais en plus, il est la créature de Dieu continue d'exister. Ceci à cause d'un récepteur, c'est ma memoria dei. Et ça, c'est une dignité, c'est une perfection. C'est une dignité divine de la nature humaine. Donc on ne peut pas faire de sagesse qui décide avec un sécateur de couper. La dignité divine de la nature humaine. Et de dire, cette petite portion, c'est la nature humaine toute seule. Bon, voilà, Eh bien, elle est un bien en soi, elle est un bien métaphysique, elle est une lumière métaphysique, elle est métaphysiquement, elle a sa perfection en elle-même. Mais non, c'est pas vrai, bien sûr que non. Séparée de son principe, séparée de sa, elle est séparée de sa substance. Séparée de sa substance, c'est un des éléments qu'on voit dans le catéchisme. La subsistance. Et la subsistance, qu'est-ce que t'en fais dans le principe qui fait partie de la nature humaine, n'existe plus. Donc c'est important de regarder tous ces éléments, prendre 10 minutes, s'habituer à ce que chacun d'entre eux, pour que le dimanche on puisse vivre de la résurrection du corps spirituel, du corps spirituel primordial, de notre capacité à répondre librement à l'appel à la perfection du Père. Si on ne déterre pas cette capacité et ce pouvoir qu'on en a, eh bien on ne le fera jamais. Avec la grâce de Dieu.